Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur AB Story, le podcast. Vous écoutez la rubrique Paroles d'auteur. Je suis Rama Likibi, éditeur audio, et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Daniel Gay, auteur de la trilogie Atlantide, prochainement disponible en livre audio sur AB Story. Êtes-vous prêt? Avez-vous votre tasse de thé, votre café ou votre jus de fruits? Eh ben, si vous êtes prêt, que vous avez un casque ou pas d'ailleurs, que vous êtes bien installé, bah, c'est parti. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Daniel Gay, auteur de la trilogie Atlantide. Bonjour Daniel et merci d'avoir accepté cette entrevue avec moi.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, comme je le disais en introduction, vous êtes l'auteur de la trilogie Atlantide, publiée chez les éditeurs Réunis et récemment adapté en livre audio chez AB Story. Il sera bientôt disponible dans notre catalogue. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de cette trilogie fantastique qui réinvente le mythe de l'Atlantide à travers un prisme riche et dense dans un certain sens. Mais avant de commencer, Daniel, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Qui êtes-vous? Que faites-vous?
Oui, donc je viens du Québec, d'une petite ville là, qui s'appelle Rimouski. Donc, j'écris des livres souvent axés là, sur la littérature jeunesse et je vais souvent toucher un petit peu au domaine du fantastique. Donc, j'en suis bientôt là, à la publication de mon 16e roman. Et parallèlement à ça, je travaille aussi là, à l'Université Laval, donc une université ici dans la ville de Québec.
Wow! Votre 16e roman.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bientôt, là, au mois d'août là, qui s'en vient, là, le dernier roman de ma trilogie qui est en cours là, va paraître. Ça va être mon 16e. J'ai commencé, là, ça fait déjà un petit bout de temps, je pense, à peu près en 2010, là, où ce que mon premier roman est sorti.
Vous avez grandi bercé par les mondes fantastiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous emparer du mythe de l'Atlantide et d'écrire une trilogie aussi dense?
En fait, comme je le disais, j'aime beaucoup le fantastique et ma première série, c'était vraiment la création d'un monde là, complètement imaginaire, un peu comme Le Seigneur des Anneaux et d'autres, les Royaumes oubliés, des trucs comme ça là, qu'on peut lire. Donc, c'était complètement inventé. Pour ma deuxième trilogie, là, qui était Atlantide, j'avais envie de faire autre chose, en fait, plutôt que d'inventer un monde là, de A à Z, je voulais partir de quelque chose qui existait déjà, en fait, un mythe que je connaissais moi depuis que je suis très jeune. Là, j'étais un grand fan là, de des dessins animés, Les Mystérieuses Cités d'Or. Et il parlait beaucoup de l'Atlantide dans ça et de l'Empire de Mu, des civilisations là, antiques qui auraient disparu, qui avaient beaucoup de technologies. Donc, c'est toujours resté avec moi en grandissant là, cette idée-là de l'Atlantide qui a disparu. J'avais envie de revisiter ça, donc, mais évidemment de le faire à ma propre sauce là, et de pouvoir apporter mon grain de sel à ce mythe-là qui est déjà bien répandu et connu.
On découvre dans votre récit une société divisée entre plusieurs cultes, la magie, la science, la religion, mais aussi des créatures puissantes comme les draken. Comment avez-vous imaginé tout cela? Avez-vous structuré cet univers pour qu'il reste crédible? Parce qu'en effet, votre monde de l'Atlantide n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver dans les différents récits, dans les différentes séries ou films. C'est quelque chose de vraiment de crédible, de bien développé, et voilà, ça sort de l'ordinaire.
En effet, en fait, souvent, toutes les œuvres qui parlent de l'Atlantide, là, c'est souvent des gens qui partent à la recherche hein, de l'Atlantide. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est aller plus en amont, donc... visiter l'Atlantide avant le cataclysme, avant la destruction. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée une société, là, évidemment, dans ce que je connaissais là, de l'Atlantide, on parlait d'une société avec une science évoluée. Donc, je voulais mettre la science dans ça. Et je trouvais ça intéressant là, d'essayer de fonder une civilisation là, assez complète. Donc, je voulais mettre d'autres instances là, qui viendraient contrebalancer la science. Donc, j'avais mis la religion. Évidemment, c'est une des premières choses qui m'est venue à l'esprit. Puis, je me suis dit aussi, il y a la magie. Et là, évidemment, dans notre monde aujourd'hui, la magie, sauf preuve du contraire, n'existe pas. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire, ça existait, c'est la fin d'un ancien monde. Fait que là, c'est là que j'ai créé, disons, les trois cultes qu'on voit dans le livre, là, qui sont la magie, la science et la religion. Et au même moment, j'avais comme une ambition d'écrire un autre style de roman fantastique qui parlait de dragons ou de personnages humains qui pouvaient se transformer en dragons. Et finalement, je parlais de l'avant avec ça, mais l'idée, je l'ai conservée. Et ce qui a amené ma race là, de Draken, qui sont aussi dans le roman, dans les romans de l'Atlantide. Et cette race-là, je trouvais aussi intéressant de dire, elle est déjà en déclin. J'hésite à parler là, de génocide, mais en tout cas, du moins, ils sont vraiment mis de côté, persécutés. Donc, c'est déjà, quand on commence les romans, cette race-là est déjà en déclin, puis ça annonce un peu tranquillement vers où s'en va tout le continent de l'Atlantide, vers son déclin, en fait. Là. Et on voit aussi que, à travers tout ça, là, dans les romans, la science est vraiment là, centrale. Hein? Donc, c'est un peu ce qu'on connaît aussi aujourd'hui. Là, on est dans un monde de science. Donc, c'est ce que j'ai mis vraiment à l'avant-plan. Là. Puis, par contre, c'est une science un peu rétro-futuriste que je me suis amusé à utiliser pour ces romans-là.
Je tiens à souligner que l'univers de l'Atlantide que vous avez imaginé est, encore une fois, extrêmement crédible, réaliste. Les technologies sont futuristes sans être trop. Une sorte de mélange entre technologie antique et technologie futuriste. Un équilibre savamment trouvé.
Oui, puis je me suis inspiré de des... Quand j'étais dans à parler de la science, je me suis vraiment inspiré là, du courant steampunk qui permettait d'avoir quelque chose qui n'était pas une copie de la science qu'on a aujourd'hui. Là. Et il y a même des inventions que j'ai mis dans les livres que j'ai été inspiré en allant dans des expositions là, sur la science, des trucs comme ça. En fait, j'ai vu des choses qui existent dans la vraie vie, des fois, qui paraissaient presque de la magie, c'était de la science. Donc, j'ai repris certains concepts de ça pour les intégrer là, dans les romans.
Est-ce que dans le roman, vous avez un personnage dont vous vous sentez le plus proche ou un dilemme que vous avez voulu explorer en particulier?
En fait, surtout dans mes premiers romans, là, mes premières séries, je voulais créer des héros là, plus grands que nature. Étant un grand fan là, de Dragon Ball Z, je voulais des héros surpuissants. Donc, je ne faisais pas une copie de ça, mais je mettais quand même des personnages très forts, très débrouillards. Et à chaque fois là, dans mes séries, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, je finis toujours un moment où j'ai besoin d'une forme d'équilibre. Puis, je vais introduire un personnage, disons, plus faible, plus petit, mais souvent avec un esprit très comique. Donc, j'avais ça dans ma première série. J'ai encore ça dans ma série actuelle. Et dans cette série-là pour Atlantide, j'en avais pas au plan du livre au départ. Et c'est en écrivant, là, et je n'aurais pu dire exactement à quel moment c'est arrivé, mais j'avais l'impression qu'il manquait vraiment un élément auquel moi, je pouvais me rattacher. Et c'est là que j'ai créé le personnage de Mo Green qui est lié plus au culte de la religion. Fait que c'est un petit bonhomme, un petit peu colérique, comique. Et fait que je mets ça dans mes romans. Puis moi, je suis quelqu'un, là, j'aime beaucoup la dérision et tous les éléments comiques. Donc, souvent, c'est pas au héros que moi, je vais m'associer. Là. Ça va être vraiment à ces personnages-là qui viennent apporter un côté, je dirais, humain et qui fait redescendre un petit peu l'histoire là, en dehors de tous les grands conflits tout ça. Donc, ce personnage-là, je l'ai beaucoup aimé, puis à tel point qu'on le voit, là, il est sur la couverture du tome 3, entre autres, là, puis il est devenu de plus en plus important dans l'histoire jusqu'à ce que dans le tome 3, là, je ne veux pas tout révéler, là, mais jusque dans le tome 3, bref, ça soit un élément clé là, de l'intrigue.
Pendant l'écriture de cette trilogie, avez-vous constaté une évolution dans votre style d'écriture, dans votre progression par rapport à la façon de structurer vos romans voilà, avez-vous constaté une évolution personnellement dans votre écriture de Atlantide?
En fait, c'est sûr que ça, c'est ma deuxième série où j'ai constaté une grande, grande évolution de mon écriture. Ça a été dans ma première série qui s'appelait Anosios. C'est sûr que on évolue toujours, là. Puis quand j'étais à cette série-là, Atlantide, je voyais que mon écriture continuait d'évoluer. J'avais un peu moins, je dirais, besoin là, de retoucher le roman de A à Z trois fois d'affilée parce que je commençais à être plus confiant un peu dans mon style. Et je dirais que dans Atlantide, là, une des choses que j'ai appris à mettre en place, c'est un plan extrêmement détaillé de l'intrigue, et surtout par rapport à ma première série. Donc, quand j'ai commencé à écrire là, le tome 1, je connaissais déjà la fin. Je savais où allaient les personnages. J'ai pas eu tant de grosses surprises par rapport à l'intrigue, puis même que c'était quelque chose que je me faisais un devoir de faire, je voulais pouvoir semer des indices dès le tome 1, dès le premier chapitre, des indices que viendraient se conclure dans le tome 3. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus là, dès le départ, avant même d'écrire une première ligne là, pour définir l'intrigue au complet. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution? Certainement, quand même, tantôt j'en parlais, là, j'ai un personnage qui n'était même pas prévu, qui est apparu et que j'avais pas prévu. Mais sinon, je vous dirais là, que c'était un plan très détaillé, puis je savais où je voulais aller. J'aime vraiment pouvoir surprendre le lecteur en y faisant comprendre que j'avais donné des indices qu'il n'avait même pas compris dès le premier tome et que ça lui donne envie de relire. Donc, on finit la série. On se dit, mais avoir su ça, j'aurais vu le personnage complètement différemment. Donc, on peut recommencer du début. Et là, on sait que tel personnage cache un secret. Et là, ben, maintenant, on peut le suivre en ayant une vision différente de ce personnage-là.
C'est intéressant. Et est-ce que vous avez une routine particulière ou une façon de procéder dans votre écriture?
Moi, j'écris de façon un peu mathématique. Là. Donc, avec mon éditeur, on décide, avant même de commencer, évidemment, on décide de c'est quoi le thème, l'intrigue. Moi, je fais un synopsis, si on veut. Et là, ben, on va se donner déjà des dates de sortie. Hein. Donc, on sait que le tome 1 va sortir, je ne sais pas moi, dans 8 mois ou quelque chose comme ça. Donc, à force d'écrire, je connais ma vitesse d'écriture. Donc, je sais que pour arriver au bout du projet, parce que c'est quand même un... Même si c'est créatif, c'est de l'art, ça reste un projet, c'est une gestion de projet, puis il faut arriver dans les délais. Donc, moi, ben, je sais qu'à chaque jour, il faut que j'écrive, par exemple, 1 heure ou 1 heure et demie pour arriver au bout du projet. Donc, j'ai commencé ça dès le début. Là, je divisais mes séquences d'écriture comme ça. Je sais qu'il y a des auteurs qui vont y aller avec l'inspiration, ceux qui n'écrivent pas tant qu'ils n'ont pas l'inspiration, ou ils vont dire, moi, je fais des gros rushs le week-end et c'est à ce moment-là que j'écris, alors que moi, c'est à chaque jour. Donc, à chaque jour, là, mettons, avant, c'était 1 heure, mais maintenant, j'apporte plus d'attention à tout ce que j'écris. Fait que ça me prend au moins 1 heure et demie là, par jour pour avancer mon roman. Et j'y vais pas avec l'inspiration. L'inspiration, je la force un peu. Si on veut venir à un bout d'un projet, à un moment donné, il faut avancer. Là. Mes plans, comme je le disais là, un peu plus tôt, mes plans sont assez précis là, avant que je commence. Donc, je vais commencer par écrire juste une ligne pour dire, bon, ben, dans ce chapitre-là, voici le nom du chapitre ou une ligne très, très simple. Ensuite, je vais reprendre chacune des lignes. Je vais écrire des fois un petit paragraphe qui décrit un petit peu plus le chapitre. Et j'avance comme ça jusqu'à temps qu'à la fin, j'aie un plan. Des fois, je peux avoir, pour un chapitre, j'ai une page complète qui résume ce qui va se passer dedans. Donc, quand je suis rendu à l'étape d'écrire, ben, je trouve que c'est assez facile. En fait, je me fie à mon plan, puis ça fait aussi, du moins je l'espère, là, des séries qui ont une cohérence plus grande, là, parce que presque tout ce que j'ai fait, ça a été des séries de 3 livres, et des livres qui se suivent, là, pas des livres qu'on peut lire dans le désordre. Donc, il y a un défi, surtout rendu au 3e livre de la trilogie, là, de rien oublier. On ne veut pas laisser le lecteur là, avoir... vu une intrigue apparaître dans le deuxième tome, par exemple, on n'en reparle plus. Donc, c'est pour ça que j'apporte une très, très grande attention là, au plan que je vais faire là, avant de commencer à écrire, en fait.
Effectivement, c'est pas courant comme façon de procéder, mais je comprends très bien l'intérêt, et effectivement, comme vous le disiez, c'est très mathématique comme procédé, mais en même temps, c'est rationnel.
Je pourrais peut-être ajouter aussi que, en plus du plan de livres, ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est à faire des fiches extrêmement détaillées. Des personnages, entre autres, là, évidemment, on ne veut pas oublier que ce personnage-là, il a les yeux bleus, est-ce qu'il est gaucher? On met des traits de caractère qu'on essaie de suivre tout au long de la série, mais qui peuvent évoluer. Et en plus de ça, ben, il y a des fiches détaillées sur des lieux que je vais faire aussi, des fiches détaillées sur des créatures que je vais inventer. Donc, je me retrouve à la fin avec une foule de fiches que je vais consulter régulièrement. Des fois, je suis obligé de m'arrêter d'écrire. Je vais aller reconsulter mes fiches pour être certain que tout soit cohérent. Donc, en tant qu'auteur, là, j'aime ça avoir vraiment beaucoup de documentation là, que je vais créer moi-même pour l'écriture de mon livre.
J'aime beaucoup cette façon de procéder là, et on peut imaginer par la suite, une fois que le roman ou même la trilogie est publiée, d'avoir sur un site internet une sorte de wiki ou de glossaire, en tout cas des pages qui permettent d'en savoir plus sur les personnages, les lieux, l'histoire, et même des éléments qui ne figurent pas dans le livre.
Effectivement, si un jour je devais revenir à une de mes séries, ben je ressortirais tous mes plans, toutes mes fiches, et je pourrais me replonger dedans. Évidemment, je relirais chacun, mais même dans un délai plus court, là, quand on est sur un projet de 3 livres comme ça, souvent, ben, j'essaie de les faire assez rapidement là, pour être vraiment dans le projet. Donc, pas étendre ça sur des années, là, mais admettons 3 livres, c'est sûr que je vais en avoir environ pour 2 ans. Et 2 ans, c'est quand même long. Là. Même si le tome 1, on l'a écrit, on l'a relu, on l'a envoyé en correction, on l'a relu, on le connaît bien, mais ensuite, ben, pendant 1 an et demi, 2, je peux partir pour faire le tome 1 et 2, puis on peut oublier des choses. Donc, moi, c'est ce que je dis à tout le monde là, qui veut écrire des livres. Là. C'est important d'avoir de l'inspiration, mais une des choses là, que moi, je mets au-dessus là, de ma pile d'importance, là, c'est vraiment il y a la persévérance et il y a la structure de ce qu'on fait. Là.
Alors, bien que classé jeunesse, Atlantide aborde des thématiques plutôt difficiles, notamment génocide, sacrifice. Enfin, est-ce que au moment de l'écriture, vous aviez en tête un lectorat spécifique? Plutôt jeunesse ou pas du tout?
Effectivement, il y a des thèmes difficiles dedans. J'avais pas choisi d'aller vers le jeunesse au départ, là, autant pour ma première série Anosios que pour Atlantide. Moi, ce que je voulais faire, c'est de la littérature que j'apprécie, fantastique, des aventures. Donc, je ne le destinais pas nécessairement à un public jeunesse. C'est sûr que j'avais quand même conscience que c'était jeune adulte et qu'aussi ça pourrait tomber là, dans la littérature jeunesse. J'en avais conscience, mais je n'écrivais pas nécessairement pour eux. Mais je faisais attention. Là. Dans le style d'écriture, dans les mots choisis, j'ai toujours quand même fait attention de ne pas rendre ça trop compliqué. Mais j'ai pas, surtout dans ces premières séries-là, je ne me suis pas restreint dans les thèmes. Puis encore aujourd'hui, où ce que là, je sais que mon public cible là, est vraiment dans le jeunesse, en tout cas du moins encore pour l'instant, je ne me restreins pas tant que ça parce que les jeunes, je me suis rendu compte, j'en rencontre là, en visitant des écoles et des fois, on parle des livres que j'ai écrits et qu'ils ont lus. Puis, pour commencer, ils n'ont pas de difficulté à comprendre. Là. Je ne les prends vraiment pas pour des idiots. Je pense qu'ils sont capables d'assimiler beaucoup plus de choses qu'on le croit. Et des fois, on simplifie peut-être un peu trop pour eux, alors que tout ce que ça leur prend, c'est une histoire qui les intéresse. Puis après ça, ben, si on les a accrochés avec quelque chose qu'ils aiment, on peut leur passer toutes sortes de thèmes, des fois plus lourds, et comme la discrimination, par exemple. Puis ça, si c'est pas fait exprès, parce que je ne veux pas non plus aborder des thèmes juste pour les aborder, mais si ça sert à l'histoire, je ne me gênerai pas là, pour les avancer. Puis je pense que les jeunes sont tout à fait capables là, d'assimiler tout ça puis de l'apprécier.
Oui, je pense que vous avez raison, et sur ces thèmes-là, il est vrai qu'écrire des romans, enfin des livres spécifiquement pour les aborder, ça peut avoir l'effet opposé. Mais si c'est bien fait et que c'est introduit de façon naturelle dans le récit, sans intention première, je pense que c'est plus pertinent.
Oui, l'idée, c'est pas de devenir moralisateur parce que tout de suite, ça deviendrait moins intéressant ou devenir un... Là, j'ai rien contre les professeurs d'histoire, là, mais dans mes romans, je veux pas qu'un jeune sente que il essaie de nous apprendre telle chose, à telle date c'est arrivé. C'est pas mon but. Mais si dans le roman, c'est pertinent, à ce moment-là, je vais le mettre. Puis ça peut être intéressant. Là, ils vont acquérir des connaissances, souvent en culture générale, qui vont survenir toutes seules, sans que l'auteur les pousse inutilement, puis sans qu'eux, ça les ait sentis qu'ils se faisaient prendre au piège dans un roman où est-ce qu'on voulait leur inculquer là, des savoirs ou de se faire une nouvelle école, si on veut. Là.
Alors maintenant, nous allons parler de la version audio de la trilogie Atlantide. Vous l'avez écoutée, et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il y a eu une émotion particulière, un chapitre, une scène particulière qui vous a marqué ? Quelle a été votre réaction à l'écoute de la version audio, donc la version lue à voix haute ?
Écoutez, il y a un peu de tout dans ça parce que moi, c'est mes premiers livres audio là, que j'ai écrits, que j'ai pu écouter comme ça. C'est toujours surprenant, je pense, là, parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler sur ces textes-là. Et moi, c'est moi le narrateur. Quand j'écris ces romans-là, c'est ma voix. C'est ma voix que j'entends comme narrateur. Donc, la première fois qu'on l'entend par quelqu'un d'autre, c'est vraiment surprenant. Et dans ce cas-ci, là, c'est en ayant une voix de femme, c'est encore plus percutant. C'est comme si quelqu'un venait se bousculer avec mon esprit là, dans ma tête pour prendre ma place. Donc, j'ai trouvé ça surprenant, je dirais, au début. Il a fallu que je m'adapte en l'écoutant. Évidemment aussi, là, il y a un petit côté là, d'accent là, Québec-France aussi qui peut être surprenant pour moi. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, là, dans l'écoute audio, c'est que c'est comme si, à un certain point, ça devenait que c'était plus mon roman. Donc là, c'est quelqu'un d'autre qui le lit. Au début, on est surpris, puis ensuite, on embarque dans l'histoire. Puis même en tant qu'auteur, on se laisse prendre au jeu. Et là, on l'écoute et on écoute les descriptions comme si c'était la personne qui lisait, en fait, là, qui était en train d'inventer l'histoire. Donc ça m'a surpris, ça m'a amené une autre vision. Des fois, c'est difficile de prendre du recul par rapport à ce qu'on a fait. Puis ça, ça aide vraiment à le faire. Au final, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, pouvoir voir cette série de romans-là, mais d'un autre angle, je dirais.
Merci beaucoup. Écoutez, nous, ça nous ferait plaisir si on pouvait, à terme, adapter l'ensemble de vos romans en audio.
Oui, je serais plus que d'accord, en fait. Là, moi, mon but quand j'écris, c'est avant tout là, que mes histoires soient lues ou entendues par le plus grand nombre de personnes possible. Au début, la première fois qu'on écrit un roman, là, on ne sait pas si on va être publié. On est gêné de le faire lire là, à sa conjointe parce qu'on n'a jamais fait ça. Puis je me disais, moi, je vais m'en faire une dizaine de copies. Je vais faire lire ça à ma famille puis je vais être hyper content. Donc, de pouvoir être publié puis qu'il y ait des centaines, en tout cas, oui, je peux dire des centaines de personnes là, qui lisent les livres et maintenant qui peuvent. Ça donne un second souffle à l'histoire là, quand ils passent en format audio. Donc maintenant, ils peuvent être entendus en plus. Je trouve ça vraiment super. Puis ça donne une pérennité, je trouve aussi, là, à ces histoires-là. Donc moi, si tous mes livres pouvaient être en format audio, je ne pourrais pas demander mieux.
Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, le mythe de l'Atlantide fascine toujours autant les gens? Et qu'est-ce que vous avez voulu apporter de différent dans votre récit?
C'est sûr que c'est une question difficile, mais je pense que l'Atlantide, c'est un mythe. Hein, avant tout, Il y en a qui vont dire qu'elle a déjà existé. Bon, on n'a pas de preuves vraiment historiques précises. Puis je pense que ça, le fait là, que ce soit un mythe, que ce soit quelque chose qui n'est pas nécessairement tangible, un peu comme, je dirais, le triangle des Bermudes. C'est des trucs qu'on entend parler qui vont venir faire travailler notre imagination. Ça va nous donner envie d'en savoir plus, de fouiller, de se dire, hey, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça a vraiment existé? De faire même des recherches. Donc, il y a quelque chose de spécial dans les mythes qui fait que ça perdure comme ça. Pourquoi l'Atlantide en particulier? Il y a très peu là, de décrits sur l'Atlantide là, qui remontent à l'Antiquité. Donc, je pense que ça rend ça encore plus mystérieux. Je pense que l'Atlantide, c'est devenu, ça fait partie de la culture, je ne sais pas si je peux dire culture générale, mais en tout cas, tous les curieux, surtout les curieux d'histoire, vont connaître l'Atlantide ou avoir déjà entendu parler du mythe. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pour perdurer là, très longtemps, comme d'autres récits, là, comme je pense à la guerre de Troie, ou ben, je parlais tantôt du triangle des Bermudes. Il y a des choses comme ça là, qui sont intangibles et qui fascinent les gens, que ce soit le Yéti, par exemple. Donc, puis quand on sort quelque chose de nouveau par rapport à ça, surtout si on arrive à trouver une nouvelle saveur, ce que j'ai essayé de faire avec la série Atlantide, ben, les gens, ça les interpelle, ils veulent voir comment cet artiste-là a interprété cette nouvelle œuvre-là, mais qui est basée sur des mythes. Donc, écoutez, je ne suis pas un spécialiste là, des phénomènes, des mythes, mais c'est comme ça que je le perçois. Je pense que, comme c'est intangible, c'est difficile à cerner, ça suscite la curiosité.
En tout cas, sachez-le, cette nouvelle saveur, elle est bien présente dans la trilogie Atlantide. L'approche que vous avez choisie est vraiment unique et singulière, et le récit n'en est que plus immersif et passionnant. Donc, bravo.
Ben, je vous remercie. C'est effectivement ce que j'essayais de faire. Hein, quand on crée en tout cas, ben, personnellement, quand je crée une nouvelle série, j'essaie vraiment d'apporter quelque chose d'inédit, un peu comme, je sais pas, ben, je pense que vous connaissez, là, j'ai un roman qui est sur Cendrillon.
Oui, chose tout à fait, sur la biographie.
Des centaines de fois à toutes les sauces. Et malgré tout, j'ai essayé d'apporter mon propre point de vue en le faisant sous forme de biographie et comme si j'étais un contemporain de Cendrillon qui l'avait interviewé. Là, comme on lit dans des biographies aujourd'hui, on va interviewer la personne, on lui demande son avis sur des choses. Donc, j'aime ça pouvoir apporter, jouer avec l'objet, jouer avec le livre, jouer la façon qu'on le présente, puis prendre un sujet qui peut exister déjà depuis longtemps, puis le voir sous un autre œil ou d'une façon différente, en fait.
Est-ce que vous avez un message à faire passer à celles et ceux qui découvriront la trilogie Atlantide, que ce soit en version audio ou peut-être même grâce à cet épisode de podcast, ils souhaiteront découvrir la trilogie en version livre classique, mais principalement ouais, à nos auditeurs. Est-ce que vous avez un message pour eux?
Un message pour ceux qui vont découvrir l'Atlantide? Ben, je vous invite pour commencer à le découvrir de la façon qui vous convient le mieux. Hein? Oui, il y a le livre papier. Là, on parle beaucoup du format audio aujourd'hui. Peut-être que je vais m'attarder un peu là-dessus. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier beaucoup là, dans les dernières années, 2-3 dernières années, les formats audio. Donc, faut pas avoir peur d'essayer ce nouveau média-là. Je pense que pour les jeunes, c'est pas si problématique que ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir lire ou écouter ce genre de... n'importe où. Moi, j'en fais beaucoup dans la voiture. Là. J'écoute des livres audio maintenant sans arrêt. Ce qui fait que j'ai tout le temps un livre papier d'ouvert et un livre audio en même temps que je vais poursuivre dans la voiture. Ça me permet de doubler ma capacité de lecture écoute, si on veut. Là. Donc, fait que moi, j'invite les personnes qui veulent découvrir mes romans ben, de les faire de la façon qu'ils souhaitent. Et ensuite, de se laisser guider là, par ce nouveau monde-là qui est particulier parce qu'on le disait tantôt, là, il y a une race avec un peu des dragons. Donc, peut-être s'ouvrir à tout ça pour, surtout si c'est dans les premières lectures, là, pour ensuite s'en aller vers d'autres d'autres romans, pas nécessairement les miens, mais d'autres romans du même genre. Ça peut ouvrir toutes sortes de choses. Je parlais de dragons, pourquoi pas aller voir ça? On parle beaucoup d'histoire dans ces choses-là. Ben, peut-être que ça va ouvrir l'imagination puis vouloir aller s'informer davantage sur l'histoire. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, donc s'ouvrir sur tous les différents sujets qui sont amenés dans la série, mais tout en le faisant de façon très ludique et simplement apprécier le récit. Et si vous l'avez suffisamment aimé, peut-être même revoir certains passages là, où, ce que, comme je le mentionnais tantôt, là, je sème des intrigues. Je pense dès le premier chapitre du tome 1 qu'on voit dans le tome 3. Donc, essayez peut-être de cibler par vous-même ces choses-là lors de la première lecture et peut-être après ça aller revisiter ça si le cœur vous en dit.
Eh bien, parfait. Merci, Daniel. J'espère que je pourrai vous retrouver bientôt pour présenter à nos auditeurs d'autres de vos romans prochainement adaptés en livre audio.
Avec plaisir.
Eh bien voilà, cette entrevue est arrivée à sa fin. Encore merci, Daniel, d'avoir accepté cette entrevue avec moi.
Je vous remercie beaucoup.
Et je vous dis donc à bientôt.
À bientôt.
Voilà, chers auditeurs, c'était Rama Likibi, éditeur audio pour AB Story. Dans le podcast AB Story, le podcast, rubrique Parole d'auteur. Voilà. J'ai eu le plaisir, en tout cas, de présenter cette entrevue. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, que ce soit sur le site AB Story ou sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et j'espère que j'ai été un bon présentateur. Voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle entrevue avec une autrice ou un auteur pour Parole d'auteur sur AB Story. À bientôt.